On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel, on le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
L'hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Enfin, surtout Transpédéguine.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue dans l'émission On n'est pas des cadeaux, qui est le nouveau nom de l'émission de la Déprave sur Radio Canu. Et aujourd'hui, on va vous parler du DSM 5, qui est l'encyclopédie des psychiatres aux États-Unis sur ce qu'on appelle les troubles mentaux, et également le mouvement Stop Pathologization Trans 2012. Et puis aussi, on fera un petit compte rendu sur les rencontres de radio féministes qui ont lieu à Marseille, et c'était la semaine dernière, il me semble.
Le week-end dernier.
Et on va passer pour l'instant aux infos. Aux infos internationales.
Donc en info internationale, il y a la Belgrade, et où la Pride, la Gay Pride a été annulée. En fait, ça fait depuis... En 2001, il y a eu la première Pride... Et ça a été un peu une victoire parce qu'il y a énormément de fachos. Et en fait, là, elle a été annulée parce qu'il y a eu beaucoup de pression de mouvements ultranationalistes. Et en fait, les autorités... moi, je pense qu'il y a des copines qui pourraient mieux nous raconter, mais il y a... Je pense que les autorités, elles n'ont pas voulu trop se mouiller. Et comme il y a eu pas mal de pression des ultranationalistes, ils ont dit, oh là là, on va la faire plus loin. Et sauf que les organisateurs, ils voulaient pas, en fait, que ça se fasse à l'extérieur de la ville, que ça se fasse complètement éloigné du centre-ville. Et du coup, ils ont décidé de l'annuler.
En Uruguay, le changement d'état civil pour les transsexuels est approuvé. Alors, pour l'instant, c'est un projet de loi, mais les députés uruguayens ont adopté ce projet de loi permettant aux transsexuels de modifier leur état civil. Alors, je cite, « Chaque personne a le droit au libre développement de sa personnalité conformément à l'identité de genre qui lui est propre, quel que soit son sexe biologique, génétique, anatomique, morphologique, hormonal », dit le projet, qui rend possible le changement de nom et sexe sur les papiers d'identité à partir de 18 ans. Donc on ne sait pas pour l'instant plus précisément les démarches nécessaires pour que ce changement soit possible. Néanmoins, on peut noter que le Sénat avait voté dans un premier temps une loi pour que toutes les personnes à partir de 12 ans puissent accéder au changement d'état civil, mais ce qui n'a pas été malheureusement conservé par les députés.
Au Canada, il y a un enseignant trans qui a été licencié, c'est-à-dire qu'il travaillait dans une école catholique Et quand ils ont su qu'il était trans, il a reçu une lettre de licenciement indiquant que l'enseignement de l'Église catholique dit qu'une personne ne peut pas changer de sexe et que le conseil a pour règle d'embaucher des enseignants qui sont modèles et témoins de cet enseignement. Et bien sûr que ça pourrait créer la confusion et des complications avec les élèves et leurs parents. Voilà.
L'UNESCO est accusée d'inciter au vice avec un programme d'éducation sexuelle. Alors c'est un peu la rubrique, on peut en rire, mais... Donc un programme mondial de l'UNESCO pour l'éducation sexuelle, dont une version provisoire vient d'être révélée, a soulevé la colère des milieux conservateurs américains, qui l'accusent de promouvoir l'homosexualité, la masturbation, la contraception et l'avortement. Ouloulou, c'est vraiment pas bien, hein. Donc le programme détaille les thèmes et les connaissances à apporter pour l'éducation sexuelle dans toutes les écoles. Donc du droit à l'autodétermination et à dire oui ou non en matière de pratique sexuelle, à des enseignements sur la contraception, l'usage du préservatif et l'avortement. La masturbation y est décrite comme une expression possible et sans danger de la sexualité. Les conservateurs ont vivement réagi, accusant l'UNESCO de vouloir établir une bureaucratie enseignant la masturbation et la contraception, ou encore que ce programme d'éducation sexuelle foule aux pieds la morale traditionnelle. Oh. On passe aux actualités en France.
Aux actualités en France. Les actualités en France, c'est marrant, c'est toujours moins sexy que les actualités à l'étranger. Bon, non, j'exagère, il y a une bonne, une mauvaise nouvelle. Allez, on va commencer par la bonne. C'est les archives lesbiennes qui viennent d'éditer un bouquin sur l'histoire depuis 40 ans de la presse féministe et lesbienne en France. Alors, il faut savoir, les archives lesbiennes, c'est un... Ou du tout un projet, c'est pas un projet vu que ça existe, c'est des nanas à Paris, depuis le début des années 70, dans un petit local, et ben elles entassent absolument tout ce qu'elles arrivent à récupérer, alors faut savoir que c'est des archives lesbiennes, mais c'est elles entassent bien sûr tout ce qui concerne le mouvement lesbien, mais aussi ce qui concerne le mouvement féministe en général. Et ça, il n'y a pas toujours eu le renvoi d'ascenseur, et je souligne que les lesbiennes ont toujours, à l'époque, soutenu les féministes dans toute leur lutte, enfin les féministes hétéranes dans toute leur lutte, que ça n'a pas toujours été très bien envoyé, il faut pas l'oublier non plus. Et voilà, du coup, il est dit, du pionnier Le Tronchon Brune à Cyprine Mag, en passant par Pénélope ou encore Clito 007, c'est un panorama très complet des innombrables revues, magazines et autres fanzines francophones parus depuis le début du mouvement de libération des femmes, qui est présenté dans Mouvement de presse, année 1970 à nos jours, lutte féministe et lesbienne, donc qui a été compilé par Martine Laroche et Michel Laroui. Michel Laroui, c'est une vieille de la vieille, avec le collectif Archives, Recherche et Culture Lesbienne, qui est donc l'association qui gère le centre des archives lesbiennes. Donc il y a plus de 200 titres cités, ce qui est pas mal. Cette vraiment illustration, il faut savoir que voilà, historiquement, il y a eu une énorme, dans les années 70 et 80, énormément de titres. Il y en a un peu moins maintenant, mais on a quelques espoirs, d'ailleurs on en reparlera, qui vont ressortir, des titres féministes. Mais aussi des interviews qui viennent éclairer des parcours de militantes pour mieux comprendre cette histoire que les ARCL, c'est les archives lesbiennes, continuent à entretenir et transmettre. Voilà, et ça c'est la bonne nouvelle, parce que je trouve que c'est génial. Une moins bonne nouvelle, c'est que, voilà, on parle depuis longtemps d'un projet de... C'est même pas une histoire, c'est un projet de loi, c'est un moment de rendre ce qu'on appelle l'homoparentalité, transparentalité, et même la parentalité non-bio égale aux parentalités bio, c'est biologique. Hein. En France, ce n'est toujours pas fait. Il y avait, alors bon, l'UMP, faut pas attendre spécialement un vrai projet là-dessus, mais il y avait Nadine Morano, donc qui est secrétaire d'État à la famille, un nombre incalculable de choses, qui avait proposé un projet de loi sur les parents tiers qui donnait quand même un minimum de droits, pas seulement aux parents, mais aussi aux enfants, tout simplement que les enfants puissent choisir un minimum avec qui ils ont envie, sinon de vivre, du moins même d'avoir des relations, quoi. Eh bien, une commission parlementaire s'est aussitôt emparée du truc, hein, dirigée par un certain Leonetti, député UMP, et en gros, ce qu'on a maintenant, c'est que le projet de loi passera, mais complètement vidé de sa substance. J'ai encore lu ça ce ce matin dans Le Monde, c'est à pleurer, hein, parce que ça veut dire qu'effectivement, le droit de regard, en gros, il y a toujours le droit de regard qui était déjà acquis par jurisprudence sur... un certain droit de regard sur l'éducation, mais c'est tout. Il n'y aura aucun droit à la filiation, aucun droit particulier à l'héritage, et surtout les enfants eux-mêmes ne pourront pas choisir les parents avec qui ils veulent avoir des relations. C'est le juge qui décidera, et le juge ne sera forcé par la loi de décider dans un sens où la filiation biologique aura toujours la priorité. Donc voilà, la France vraiment toujours un pays de merde, quoi.
Petite pause musicale pour la fin de ces infos.
Donc on va mettre Yo Majesty qui était venu il y a quelques mois jouer à Lyon, et c'est la chanson Hostel Mode.
Money is the root of all evil. Then again, it can answer all things. Can I pray on change? What would that get me? Rap back, starting from the beginning. Business words and stretch to let me hustle more. Sometimes I feel like I'm a choke. That's something got to grab my throat. Had the money, the cash, the flow. Rubber band girl, guess that girl. Sean Beacon too. Majesty, but we ain't taking nothing. Not belonging to us. All we do is keep up us. And you know how us is doing. I'm a Leo lover, not a fighter. Get into the music just to lesson. Teaching all who are listening. No more backtracking, resurrecting ashes. I'm in my hustle mode. Gotta cop the whole album if you want to learn more. Motherfuckers mind, chill, hustle every day, damn right, no lie. Striving to be the best, yes, been on some real nigga shit. Hustle everybody, this is not a test. Family's all I got, and we gon' get it done till we reach the top. That's right. I'm in my hustle mode. Gotta get it cause I want some more. Need the money, need the cash in the floor. I'm in my hustle mode. I'm in my hustle mode. Gotta get it cause I want some more.
Voilà, c'était Your Majesty.
Donc, on va parler maintenant du DSM.
Le DSM. Mais qu'est-ce que c'est?
Donc, c'est l'encyclopédie le manuel en fait de diagnostic et de statistique des troubles mentaux aux États-Unis. En 2012, apparaîtra la cinquième révision de cette encyclopédie des troubles psychiatriques qui est produite par l'APA, l'American Psychiatric Association. Et ce sont donc ces psychiatres de l'APA qui décident à chaque révision de ce qu'ils considèrent comme normal et anormal. Donc il faut savoir que les nouveaux diagnostics émis sur des soi-disant troubles psychiatriques sont votés par l'Assemblée des psychiatres de l'APA. Autrement dit, ils sont les seuls à décider de la normalité.
Et tu as quelques exemples la normalité et
je
la
pourrais,
normalité
en raconter un peu plus tout à l'heure, mais dans le prochain DSM donc 5, puisqu'on était au DSM 4 jusque-là, il y a notamment l'amertume, l'addiction à Internet ou le shopping excessif qui pourront être rajoutés aux troubles de l'humeur du DSM et donc médicalisés. Et tout peut être médicalisé en gros. C'est un peu toutes les émotions peuvent maintenant être médicalisées grâce au DSM. Alors le DSM, il ne sévit pas qu'aux États-Unis. En fait, il est utilisé par l'OMS via la CIM, qui est la classification internationale des maladies ou quelque chose dans le genre, qui est sensiblement semblable au DSM et qui permet en fait d'internationaliser un peu toute la classification de ce qu'on appelle les troubles mentaux décidés par nos très chers psychiatres. Du coup, on va écouter Miguel, qui est un activiste du réseau Trans et Intersex de Barcelone, qui nous raconte un peu le DSM-5, plutôt du côté trans. Et puis, on reviendra dessus tout à l'heure en expliquant un peu plus et puis en le généralisant, puisque ça touche pas seulement les trans, mais toute personne qui rentre dans ces troubles mentaux.
Oui, parce que ce que t'as... Là, les exemples que tu as donnés maintenant de nouvelles pathologies qui vont rentrer dedans, ça fait, on va dire, plutôt rigoler vu le n'importe quoi, mais qu'il y a quand même des trucs qui sont considérés comme pathologies qui sont assez énormes, quoi.
Les pathologies. Moi, je suis complètement tologique. Je suis anti-pathologique.
Donc le prochain, le DSM-5, apparaît en 2012. Donc normalement, il y a des groupes de travail pour chaque trouble, pour chaque maladie mentale. Il y a des groupes de travail qui fonctionnent pendant 5 ou 6 ans et ils débattent entre eux. Ça fonctionne un peu avec un système d'exposition dans le sens, par exemple, le groupe, dans le concret, ce qui nous intéresse, le groupe de travail de troubles de l'identité de genre, c'est 5 psychiatres qui travaillent là-dessus et ils présentent des textes. Après, ils votent sur le texte qui a été présenté et en fonction du vote, ils prennent une direction ou une autre. Les psychiatres qui travaillent dans ce groupe de travail et qui vont décider si la transsexualité continue ou pas à être pathologisée, c'est 5 psychiatres, 3 américains et 2 européens. Le président du groupe, le directeur du groupe qui est devenu assez connu parce que le mouvement trans aux États-Unis est en train de beaucoup travailler pour le faire disparaître, c'est celui qui a. C'est un pionnier en technique thérapie électrochoc pour robots. Et le sous-directeur, c'est celui qui a fait les premières cliniques pour enfants intersexes aux États-Unis. Donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est eux qui sont en train de présenter tous ces textes qui sont votés pour voir quel chemin ça prend. Et ce qui déjà, il y a beaucoup de sécrétisme. Je veux dire, c'est très très difficile de savoir à quel point ils en sont. Mais par rapport aux contacts qu'on a aux États-Unis, par rapport à ce qu'on sait à peu près, il paraît que non seulement le trouble d'identité de genre continuera, mais ils sont en train de développer un trouble pour enfants. Et un traitement, un protocole, c'est-à-dire quand les enfants, ils n'ont pas des attitudes super masculines ou super par rapport au genre ou au rôle de genre qui leur est attribué. Il y a toutes des techniques qui commencent à se mettre en place. Par exemple, je suppose que vous avez entendu, l'arrêt du développement hormonal. Bon, ben, tu prends des pastilles et donc tout le développement du caractère sexuel secondaire s'arrête. Et après, apparemment, ce qu'ils disent, c'est que quand tu veux prendre la décision, tu arrêtes de prendre ce médicament et le corps, automatiquement, il reprend. Mais bon, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Il ne faut pas médicaliser les enfants, mais changer la structure dans laquelle on vit. Et j'espère que là, on est d'accord.
Alors, donc des petites précisions sur ce qui vient d'être dit par Miguel. Donc il parlait notamment, en tout cas il y a 3 figures tristement connues dans le groupe troubles sexuels et identité de genre. C'est le docteur Ray Blanchard, le docteur Kenneth Zucker et le docteur Bailey, Michael Bailey. Et pour un peu les présenter, le docteur Zucker, il travaille avec des associations de recherche et de traitement des homosexuels. Et son travail consiste notamment à remettre les enfants qu'on appelle sexuellement déviants, ça veut dire homo ou trans, sur le droit chemin grâce à une thérapie de conversion qui inclut notamment des traitements hormonaux pour empêcher les personnes de transitionner ou d'être homo. Le docteur Blanchard, lui, il a monté un programme pour les personnes trans où seulement, je crois, 5 personnes par an sont reçues, tellement c'est des conditions absolument inimaginables. Et en gros, ce qu'il note, enfin, ce que les associations notent par rapport à ce qu'il a créé comme programme, c'est que grâce à lui, l'accès au service médical est beaucoup plus difficile. Et pour y avoir accès, il est obligatoire d'être soumis à des tests de sexualité dégradants. Le docteur Blanchard, toujours, il est également connu pour ses connexions avec les milieux qui se sont opposés à la dépsychiatrisation de l'homosexualité, et ainsi qu'avec les eugénistes, par l'intermédiaire du docteur Michael Bailey, qui est le troisième psychiatre, donc qui fait partie de ce groupe. Et donc ce psy, il est connu pour un article qui prône l'avortement eugénique de fœtus homosexuels.
Ça veut dire quoi, eugénique?
Ça veut dire qu'en gros, c'est pour un peu épurer la race humaine, on va dire comme ça. Et ben, on enlève tout ce qui est mauvais. Et pour lui, c'est moralement acceptable d'avorter de fœtus homo, trans ou intersexe, parce que ça épure l'humanité, quoi. Ça veut dire que, bon, on met à la poubelle ce qui est déviant, et comme ça, on devient pur. C'est, voilà.
Mais ça part aussi du fait que on croit en... Ce truc-là fait qu'on croit au gène de l'homosexualité, etc., etc. Ouais, c'est la base aussi, quoi.
C'est sûr. Et par exemple, Michael Bailey, donc ce psy qui a écrit cet article, il a également reçu énormément d'argent de la part du gouvernement des États-Unis pour trouver la cause de l'homosexualité. Donc, la cause de l'homosexualité, c'est forcément liée à des gènes. Les études actuelles, ils essayent de trouver le fameux gène de l'homosexualité, de la transsexualité, tout ça.
Et alors même qu'ils l'ont pas trouvé, ils veulent faire des avortements. C'est fou, quoi. Bah, c'est génial.
Oui, c'est ça, c'est que ça part du principe qu'effectivement le fœtus, on devinerait qu'il est homosexuel ou transsexuel. On peut en rire, hein, mais n'empêche que ces psychiatres, ils ont quand même un pouvoir assez hallucinant de par le DSM sur toutes les populations qui sont visées par leur nouveaux troubles. Et ils s'arrêtent pas là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans le DSM-5, on va devenir vraiment un espèce de fléau, on peut le dire, parce que la transsexualité va devenir une maladie mentale sexuellement transmissible. Attention. Alors,
j'exagère, c'est quoi ce truc ?
Mais en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est donc en gros dans le DSM-5, il y a dans le DSM-4, il y a une catégorie qui s'appelle la paraphilie, qui est psychiatrisée. Et la paraphilie, on trouve différentes catégories connues dans la paraphilie qui sont notamment l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, le fétichisme, j'en passe, plein de mots en isme comme ça, qui sont psychiatrisés parce que c'est des pratiques sexuelles qui diffèrent de la normale ou qui sont anormales.
Qui sont déviantes.
Et ces médecins veulent étendre en fait la définition de la paraphilie à tout intérêt sexuel intense et persistant, autre que des stimulations génitales ou des préliminaires avec des adultes consentants et phénotypiquement normaux. Et c'est le phénotypiquement normaux qui veut dire qu'en fait, coucher avec une personne trans ou intersexe, ça va devenir une maladie mentale. Ça pourrait être psychiatrisé parce qu'on est attiré par des personnes phénotypiquement anormales. C'est ça qu'ils veulent rajouter. Alors, c'est... en tout cas, c'est leur projet.
C'est le grand n'importe quoi.
Entre autres. Et puis, il y a aussi d'autres définitions qu'ils veulent rajouter, qui visent notamment les transsexuels M2F avec... alors, j'ai pas compris, c'est des termes qu'ils voudraient rajouter pour essayer de séparer ce qu'ils appelleraient de la gynéphilie. Je sais plus exactement comment ils l'appellent. Mais...
Je crois qu'en fait, c'est une remise au goût du jour des bons vieux primaires et secondaires qu'on avait avant. En gros, il y a les primaires, c'est génétique. Si j'ose dire. Et les secondaires, c'est simplement parce qu'elles ont flashé un moment sur les nanas et que, du coup, c'est des fantasmes. Voilà. Je crois que c'est de ce genre.
Ok. Alors, pour étendre un peu, parce que ce DSM, il touche pas seulement les trans, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour montrer en fait quel est comment ça marche le DSM et qui c'est qui tient un peu les rênes de tout ça. Donc aux États-Unis, on a de plus en plus d'historiens, d'écrivains et quelques psychiatres qui commencent à se soulever contre le DSM parce qu'ils accusent les psychiatres de l'APA, donc l'American Psychiatric Association, de médicaliser les plus banales de nos émotions. Et donc tout à l'heure, je parlais de l'amertume, l'addiction à Internet, le shopping excessif qui pourront être médicalisés. Et actuellement, il y a par exemple, entre autres, la timidité, la peur de perdre un emploi, la peur de la mort, qui sont déjà médicalisées.
Et puis il y a aussi par rapport aux enfants et les enfants qui sont trop agités, qu'on gave de cacheton, quoi.
Ouais. Alors, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est du coup, quel est l'intérêt des psychiatres à vouloir absolument tout médicaliser, quelles que soient les émotions, tout ça. Et du coup, ce qui a été, une étude qui est apparue il y a pas très très longtemps montrait que pour le DSM-4, c'est-à-dire la révision de 92-94, 56%. Des psychiatres qui ont participé à cette révision avaient un lien très fort, un lien financier très fort avec l'industrie pharmaceutique. Et forcément, parce que quand on est psychiatre, qu'est-ce qu'on fait ? On va donner des cachets aux patients. Et donc, on fonctionne avec des contrats avec les groupes pharmaceutiques. Et du coup, les groupes pharmaceutiques payent les psychiatres pour qu'ils fassent la promotion de leurs produits. Et c'est comme ça que ça marche pour le DSM. C'est-à-dire que les psychiatres vont encaisser des contrats pour que tel médicament puisse soigner tel symptôme, etc. Et du coup, suite à cette révélation, l'APA, donc l'association des psychiatres américains, là, a essayé d'un peu d'étouffer l'affaire en disant cette année, enfin pour le DSM-5, vous ne toucherez pas plus de 10 000 dollars par an de la part des industries dans le cadre du DSM, quoi, de la part des industries pharmaceutiques, sachant que bon, déjà 10 000 dollars par an, ça peut nous paraître énorme, mais surtout ça comprend pas du tout les subventions pour les recherches. Or, les psychiatres se font subventionner par les industries pharmaceutiques pour leurs recherches. Et bref, tout ça pour dire que voilà, qui tient les rênes, c'est l'industrie pharmaceutique, que certains groupes, comme justement les troubles de l'humeur, donc tout ce qui est tout ce qu'on disait tout à l'heure, timidité, amertume, etc., ces groupes-là, 100% des psychiatres ont un conflit d'intérêts, c'est-à-dire 100% des psychiatres ont un lien financier, ont des actions, ont des contrats avec les groupes pharmaceutiques, parce que c'est un des groupes où tous les symptômes donnés sont soignés par des médicaments, et notamment par des psychotropes, antidépresseurs, antipsychotiques, qui sont un gain énorme. C'est en dizaines de milliards de dollars de gains pour l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, ils s'en foutent de payer quelques milliers à des psychiatres pour ensuite avoir ce gain-là. Voilà, c'était un peu un résumé de la situation, enfin de c'est quoi le DSM et par qui c'est fait, etc.
On peut mettre une petite chanson ?
Oui.
Donc ça va être Tim Drash, et la chanson elle s'appelle « Vegetarian and Dyke ». We'll be right back.
On est toujours dans l'émission On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu 102.2. On va passer maintenant suite à ce qu'on vient de raconter sur le DSM-5. Et donc ça a sorti en 2012. Il y a des activistes trans qui ont décidé de mener une campagne qui s'appelle Stop Pathologization Trans 2012. Je vais laisser du coup paraître toujours Miguel, activiste du réseau trans et intersexe de Barcelone, qui nous raconte un peu qu'est-ce que c'est que cette campagne et dans quel but.
On a repris l'idée de l'existence pour faire des marches pour les dépsychiatrisations. Et donc on a fait une marche il y a 2 ans, le même jour que celle de Paris. On a fait cette marche il y a 2 ans, ça a très bien marché. C'était la première fois qu'en Espagne il y avait une marche trans et on a axé tout le discours sur la dépsychiatrisation. Et l'année dernière, en octobre, on a réussi que 11 villes à la fois manifestent. Et ce qui s'est passé, c'est que plein de villes en Espagne se sont réveillées aussi. Donc on a décidé d'organiser une coordination dans l'État espagnol de villes qui manifestent en octobre et essayer de faire ce mouvement qui est un peu parti de l'Espagne par rapport à faire les marches axées sur la dépsychiatrisation, de se mettre d'accord tous, pas seulement les villes en Espagne mais dans le monde, pour avoir toujours le même slogan, faire le même jour, essayer d'avoir des manifestes communs, même si après sûrement il y a une partie du manifeste qui est très locale, essayer que la partie internationale du manifeste revendique les mêmes choses, comme par exemple éliminer la transsexualité, de faire disparaître la transsexualité, etc. Donc on s'y est mis, et déjà on travaille sur ça, ça fait quelques mois, on a des idées, un slogan commun pour toute l'Espagne. En fait, j'explique ça ici parce que ce qui serait intéressant, c'est que toutes les villes ou le majeur nombre de villes adoptent le même slogan. Si c'est pas exactement le même, par exemple la dernière, c'était pas le même, mais c'était clair que c'était une coordination de villes, qu'on était tous dans la même chose, même si c'était pas les mêmes slogans. Donc cette année en Espagne, c'est Stop Pathologization Trans Objectif 2012, et le fait c'est de répéter ce même slogan jusqu'en 2012, parce que comme ça, ils en auront marre. Et un peu l'objectif, c'est, comme on sait que c'est super difficile de dépsychiatriser, l'idée c'est de faire un lobby super puissant, de façon à qu'ils ne puissent pas dire qu'ils ne savaient pas. Après, s'ils continuent à psychiatriser, c'est pas parce que nous on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire, de notre côté, pour visibiliser qu'on n'est pas d'accord, qu'il y a plein de gens, et pas que les trans, qui ne sont pas d'accord. Et bon, ça c'est l'idée de slogan. Après, il y a des villes qui vont faire un sous-titre à ce slogan, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont rien comprendre.
Les psys, c'est l'enfer, les trans en colère, les psys, c'est l'enfer, les trans en colère, les psys, c'est l'enfer, les trans en colère,
les psys, c'est l'enfer, les trans en colère,
les psys, c'est l'enfer, les trans en colère.
Alors, nous, on s'est organisé pour contacter d'autres villes. Donc, le travail qu'on fait en ce moment, c'est délimiter un manifeste et un slogan commun. Essayer d'avoir un slogan graphique, une image qu'on puisse tous mettre dans nos affiches, que les gens ils commencent à avoir cette image en tête, même des étiquettes, quelque chose qui commence à être mis dans tout le monde entier. Comme il y a eu plein de mouvements qui ont utilisé la même image dans tout le monde. Donc, tu vas où tu vas, je sais pas.
Non, la même.
Oui, par exemple, l'image, par exemple, les manifs contre la guerre en Irak, c'était les mêmes ici, mais au moins chez nous et au Portugal, c'était toujours la même image. Donc les gens, ils vont finir par savoir que cette image veut dire des psychiatrisations trans. Et ça, c'est un peu l'enjeu. Donc on a 3 ans pour faire ça, mais il faut s'y mettre. Nous, ce qu'on a fait, c'est se mettre d'accord entre les activistes en Espagne, déjà, pour chercher de nouvelles villes. Donc, ici à gauche, c'est les villes en Espagne, Paris, Lille et Bruxelles qui nous sont manifestées l'année dernière. Et à droite, toutes les villes qu'on a contactées. Les Panthères à Lisbonne, à Portugal, disent qu'ils vont le faire. Tolin en Italie. Aux États-Unis, on est en contact avec New York et Seattle. Et on n'a pas vraiment de contact à San Francisco, chose qui serait très intéressante, parce qu'il y a une communauté trans très grande. Après, Amérique latine, on a des contacts à la capitale de l'Équateur, la capitale du Pérou, Lima, dans une ville au Brésil, et on est en train de voir si Sao Paulo au Brésil manifeste aussi. Et après, Londres, Amsterdam, Berlin et Bologne en Italie. C'est des villes qui ont dit oui, mais on cherche la façon de faire. En sorte que... Donc le truc, c'est surtout, et c'est ce qu'on parlait avant, il n'y a pas vraiment un travail à faire énorme en coordination internationale, mais juste avoir les bons contacts. Savoir que la personne avec laquelle on est en contact dans la ville est quelqu'un de responsable de la marche. Et donc, si on passe une information d'urgence, elle va savoir. Et c'est juste être tous en contact avec les mêmes personnes. Nous, on nous fait partie de l'Assemblée de Barcelone. Donc, nous, c'est clair que si vous vous adressez à nous, ça passe directement, une information qui passe directement à la marche. Mais je ne sais pas dans les autres villes comment ça se passe et je ne sais pas de quelle ville vous venez tous. En tout cas, l'information c'est ça. Et par rapport au manifeste, on s'est dit de chaque ville écrit un manifeste, mais il y a 4 points, en tant que, je veux dire, écrits comme des points, qu'on reprend toutes les villes. Qui c'est les mêmes que ceux de l'année dernière, puisqu'on n'a rien réussi. Et c'est faire disparaître le trouble des manuels internationaux, faire disparaître la mention de sexe dans les documents officiels, finir avec les traitements de normalisation binaire pour intersexe et le libre accès aux traitements hormonaux chirurgiques. Ça, c'était les 4 points de l'année dernière et je pense que ça va reprendre.
Voilà, alors pour l'instant, à ce qu'on sait sur la campagne Stop Pathologization Trans 2012, il y a à peu près 35 villes qui participent à cette action, dont un peu plein de pays, en Turquie, Espagne, Allemagne, Colombie, Belgique, Argentine, Brésil, Venezuela, Mexique, France, Pérou, Portugal, Angleterre, Québec, Équateur, États-Unis, Chili et d'autres encore, il me semble. Ces actions se passeront le 17 octobre 2009, sauf Paris où ça se déroule le 10 octobre, on en parlera dans l'agenda. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le blog d'information de la campagne Stop Pathologization Trans 2012. C'est stp2012.wordpress.com. Voilà. On va parler maintenant des rencontres.
Mais peut-être que, tant qu'à faire, on pourrait annoncer ces deux rendez-vous, puisque c'est sur la même thématique. On pourrait annoncer l'existence et puis le Montpellier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que comme c'est exactement de ce que tu viens de parler. Donc l'existence à Paris, elle va se faire le 10 octobre. Donc il y a un rendez-vous à 14h au métro Jourdain et elle se terminera à République. Donc les revendications, non, elles sont les 4 que vient de citer Miguel, elles sont pas toutes reprises. Donc là il y aura la dépsychiatrisation totale et effective de la transidentité, à savoir l'absence de recours obligatoire au psychiatre pour démarrer une transition, avec la dissolution de toutes les équipes officielles, l'obtention simplifiée du changement d'état civil sans stérilisation forcée, l'abrogation de la loi des différentes lois de sécurité intérieure qui mettent en difficulté les travailleuses du sexe.
Et donc, voilà, le 17 octobre, donc c'était la, c'est censé être la grande fête un peu partout, donc sauf en France, mais il se trouve qu'au printemps, des gens du mouvement ont appris qu'il allait se tenir à Montpellier, les 16 et 17 octobre, un magnifique colloque apparemment interdisciplinaire, comme on dit, des professions de santé. Alors apparemment, il y a des psychiatres, il y a des chirurgiens, des... j'ai pas tout compris tout ce qu'il y avait, hein. Sur le thème « Les corps transformés ». Apparemment, on sait, c'est avec une vision absolument épouvantable. Alors, les corps transformés, il y a un peu de tout, hein. Il y a les trans intersexes, je crois qu'il y a les automutilations, je crois qu'il y a les piercings. Il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut, en gros, avoir envie, à un moment dans la vie, de faire pour changer son corps. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que... bon, ouais, voilà, non seulement le cadre est assez effrayant, parmi les participants, il y a quand même nos amis Cordier et Chilan, qui sont des vieux salopards de Paris. Alors, Chilan est une psychiatre, voilà, une nana qui doit avoir un certain âge maintenant, et c'est spécialiste des trans en France. Alors, faut voir un peu quand même ce qu'elle écrit, on l'a dit 10 fois, mais il faut le redire une 11e fois dans son bouquin, parce que c'est quand même génial. Elle a fait un bouquin qui s'appelle « Changer de sexe », qu'il ne faut pas confondre avec le bouquin de Stéphanie Nico et sa copine, qui s'appelle aussi « Changer de sexe ». Petite citation, je suis surprise de voir arriver une très jolie femme dont on se demande comment elle a pu épouser cet homme qui n'a l'air ni d'un homme ni d'une femme, est obèse et n'a aucun charme. C'est d'un tact et d'un... Bon, voilà. Bref. Autre citation, tous souffrent, ils sont même si pathétiques qu'ils finissent par entraîner les médecins dans un affolement de la boussole du sexe et d'obtenir de haut finish ce qu'ils ont décidé d'obtenir. Ce qui est quand même, je trouve, le minimum qu'on puisse attendre d'un médecin, c'est d'obtenir ce qu'on veut de lui ou d'elle, parce que sinon, quoi il sert. Et pour finir, ce qui est aussi très, très marrant, il n'est pas question qu'un transsexuel mâle biologique, parce qu'évidemment pour elle, une MTF c'est un transsexuel, hein, soit féministe. Il ne peut que se conformer d'une manière caricaturale aux stéréotypes sociaux pour se faire reconnaître comme femme et vice-versa. Le vice-versa doit se voir pour les FTM. Le discours des transsexuels interrogés sur ce qu'est la masculinité ou la féminité est remarquablement pauvre et conformiste. Donc vous voyez le genre de personne qui est invitée dans ce genre de petite sauterie. Donc voilà, un certain nombre de groupes emmenés par Pink Freak, un groupe de Montpellier, ont décidé de faire un contre-colloque.
En tout cas, c'est pas mal, ça va permettre de faire le 17 octobre... alors qu'il y a plein d'autres choses dans tout plein de pays et tout ça, que ça soit à Paris, qu'il se passe quelque chose aussi sur surtout le truc stop pas toutes les utilisations.
Donc il y a un contre-colloque. Or, je tiens quand même à dire qu'il y aura en fait une présence trans, alors qu'il ne devait pas y en avoir au colloque entre guillemets officiel, parce qu'il y a au moins une connaissance de Montpellier qui est aussi au planning familial, qui est trans, qui a été tout simplement voir les organisateurs, leur dire non mais ça va pas la tête, hein, qu'il n'y ait pas de trans, et apparemment elle a reçu, je ne sais pas si elles sont plusieurs, je sais pour elle, un droit de parole et de réponse, a priori à peu près tout ce qui serait dit. J'ignore absolument le cadre de la chose, donc je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer, mais il faut le dire aussi. Et donc il y a le contre-colloque qui va agiter apparemment des questions très pointues. Je vais vous lire les questions qui vont être agitées pendant ces 2 jours. Vendredi matin, historique du mouvement trans et intersexué. Vendredi après-midi, comment combattre la genrophobie d'État et la genrophobie quotidienne. Alors moi, je sais pas très bien ce que c'est que la genrophobie, c'est un nouveau mot. Tout à l'heure, je me suis dit qu'on pourrait peut-être le traduire par haine des identités multiples. Il me semble que ça doit vaguement correspondre à ça, hein, mais il faudra qu'on me dise si je me trompe ou pas. Samedi matin, dichotomie centrée genre, information et prévention. Samedi après-midi, présence et représentation des trans et intersexués dans les arts et médias. Alors si jamais vous voulez quand même y aller, il faut prendre contact avec Pink Freak. Alors je n'ai pas le mail dans la tête, mais ils ont un site, vous faites Pink Freak Montpellier et vous aurez un moyen d'avoir contact avec eux. Voilà.
Et en tout cas, nous, on fait un soutien féministe à ces deux événements. Ben, on peut parler des rencontres, c'est ça? Donc le week-end dernier, on est allé assister à des rencontres de radio, d'émissions féministes. Donc ça se passait à un niveau national. Il y avait des personnes du coup de l'émission Voyelle à Toulouse. Il y avait des personnes de des émissions dégenrées et Calibre qui vient de commencer à Grenoble. Et il y avait les Cagoles, c'est l'émission de Marseille, qui nous invitait à Marseille pour qu'on se retrouve, discuter. Et bien sûr, il y avait Lilith Martine et les autres. Et on n'est pas des cadeaux. Et on était tous toutes réunies pour essayer de se mettre plus en lien, pour essayer de se renforcer aussi.
Il y avait plein de monde. Moi, j'étais épaté. Et en plus, je tiens encore à remercier les nanas de Marseille. J'en ai encore envoyé un mail ce matin en mon nom propre pour dire vraiment que vous avez assuré. Parce que rien que pour gérer tout ce petit monde, il fallait le faire. Et que voilà, c'était bien agréable. Je vais vous dire très franchement, hein, j'ai pas arrêté d'aller à des rencontres féministes ou assimilées depuis le début de l'été. À chaque fois, c'était la loose. C'est la première où je me suis senti bien. Je vous le dis, franchement, comme c'est... quoi.
C'est vrai, ça donnait vraiment plein de force. On était une bonne quarantaine, hein, et puis dans un cadre en même temps studieux et détendu, bon mélange entre. Et moi, je voulais proposer de mettre, alors en fait, pour la présentation là-bas, il y a eu une chouette proposition des Cagoles, c'est de faire une espèce de compilation de bout de nos émissions et qu'on passait et ensuite on discutait plus de nos émissions. Et là, les femmes de Toulouse ont regroupé dans un CD qu'elles nous ont donné ce qui s'appelle les medley de chaque émission. Et là, on proposait de mettre celui des Cagoles à Marseille, comme ça permet de faire un peu de pub pour leur émission. Et puis vous donner envie d'aller découvrir sur des sites pour écouter l'émission.
Le complot des Cagoles, une émission féministe tous les premiers mercredis du mois sur Radio Galère 88.4. Attention, les Cagoles complotent.
Me gêne, pompe mon oxygène.
Micro-connard, micro-connard, micro-connard.
Il est maintenant 2h du matin. Sur la plaine, les bars ferment. Nous sommes maintenant tout un groupe de cagoles. Et si tout simplement on s'asseyait sur un banc pour boire une bière? C'est là qu'arrive le mangeur de string.
Moi je pense qu'on s'assoit sur un banc, on se boit une bière tranquille. Moi j'ai super soif.
C'est ta vie.
Parce que ma vie, justement, tu vois, j'avais pas envie que tu rentres dans la mienne. Voilà.
Ah ouais, ouais. Je sais pas d'où.
En tout cas, ce soir.
Tu viens, je sais pas d'où, ouais, c'est pas grave.
C'est la soirée.
T'inquiète, n'aie pas peur. Je vais pas me te manger ton string, elle me casse pas les couilles.
Ah ouais. Bah, c'est toi qui me casses les couilles, là, moi, personnellement.
Bon, tu veux que je te mange ton truc?
Vas-y, arrête de délirer quand tu parles comme ça, toi. Non, mais là, ça va pas, là.
T'as vu,
regarde,
t'as vu comme tu parles.
De meufs et tout, t'as vu, tu veux pas.
Et tu veux qu'on entende ça et qu'on reste passive, hein? Non, mais franchement. Toutes tes paroles, c'est des paroles en l'air, alors finalement, ou quoi? Tu les penses, hein? Sérieux, tu les penses?
Moi, je mange des strings.
Non, mais quand tu lui dis, tu le penses, tu lui proposes de faire ça?
Mais si elle veut, c'est d'un string.
Ouais, mais pourquoi tu parles de son string? Parce que c'est une meuf, mais je comprends pas, quoi. Moi, je suis
sur fait,
une
gadou,
moi, je te dis juste que... vas-y, hein, tu me saoules.
Ouais, mais là, tu es en train de...
Moi, je mange le string, qu'est-ce qu'il y a? Un problème?
Je la respecte pas,
je
quoi.
Mange des strings, hein, moi.
Tu considères ça, toi?
Je mange des strings, c'est un problème,
vas-y.
Là.
Il y a le marché le matin, il y a des tas de strings à un euro.
Non, c'est la Marseillaise, je mange des strings,
il y a des strings au marché.
Je mange des strings,
là. Il y a de deux, quoi.
Tu vas pas me prendre ailleurs, tes strings.
Au marché, tu peux en acheter.
C'est Marseille, si tu veux arriver, je te mange ton string. C'est un problème, là.
Non, mais vas-y, c'est bon.
C'est bon. Ne me prends pas à vivre chez moi.
Non, non, tranquille.
Ne me prends pas à vivre chez moi. Personne ne va pas vivre chez moi ici.
Ouais, mais tu viens pas nous parler.
Chez moi ici.
T'es chez toi.
Restez-vous. Mal au plaisir, comme ça, toi.
Tout à fait.
Mal au plaisir. Ah, moi, je vous baise, hein.
Non, mais bonne soirée.
Ciao, ciao. J'ai des strings, moi. C'est pédé, moi.
Ils nous connaissent. Où est-ce qu'on se pose? Ouais, ils se connaissent.
Okay. Ils nous connaissent pas.
Non, ils se connaissent eux, mais je veux dire, est-ce qu'on est prêt à ce qu'il y ait un groupe à base de nous, quoi?
Ouais, je dis, on se pose dans un endroit peinard, on se boit une bière, ouais, mais on se
déjà en fait, là, t'as vu, c'est quand même là.
Genre à côté du snap, je sais pas.
Ok.
Même là, on change de quartier, t'as vu, on change de quartier, on s'arrache de là. On reste pas.
Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public, faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là, j'en ai marre, ce soir, ils vont mourir con. Et puis tu sais, leur point commun à tous, c'est qu'ils nous les cassent en long, en large et en douce. Si ça nous intéresse, ils s'en tapent. Trop occupés qu'ils sont à vouloir attirer les regards et l'attention. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public, faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils veulent, ils parlent, ils ouvrent leur gueule. Qu'ils me laissent tranquille, putain j'en ai ras-le-bol. De ces faux vandales, vantards, forts en parole. Ils me gênent, pompent mon oxygène. J'imagine que leur connerie est dans leur gêne. Et ils nous infligent, sans que ça les dérange. Tout ce qui voltige dans leur crâne les démange. Mensonges dans leurs messages, et c'est avec beaucoup de courage que j'écoute leurs mirages. Trop d'énergie à vouloir donner le change, essayer à tout prix d'être ce qui les arrange. C'est dans ma tête qu'ils mentent et puis qu'ils tentent de me persuader de ce qu'ils inventent. J'en ai marre de subir et de tenir bon. Ce soir j'ai envie de faire mourir un con.
Qu'est-ce que t'as dit là?
Rédit, suce-moi, connasse.
Carrefour Grand Littoral, jeudi 27 mars, il est midi. On a rendez-vous avec des travailleuses de l'enseigne, de celles qui ont participé à la lutte de 16 jours qui s'est déroulée début février. Une lutte inédite et fort médiatisée. Alors plus d'un mois après, que reste-t-il à dire?
Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur tout ce qui s'est passé par rapport à notre grève? Alors ça s'est déclenché bien avant, je pense. C'est un état d'esprit qu'on a actuellement dans le magasin. On a un gros problème d'argent. On travaille et on est considéré comme des emplois précaires.
Le parking des livraisons, cet espace qu'elles ont tenu pendant 16 jours, c'était le lieu de lutte. La grève a été en majorité une lutte de femmes.
Vous dites que les femmes seraient peut-être plus révoltées.
Bah oui, parce que je pense que c'est... Alors, il faut pas le croire, mais on est beaucoup de femmes seules ici. Hein. Et ouais, donc quand vous gagnez 950 euros par mois, que vous, comme mon cas, que je vous sortais 450 euros de loyer... Je parle que du loyer, je ne parle pas de l'EDF, bon, je ne suis pas imposable, évidemment, avec les misères que j'ai, on ne risque pas de... Donc vous payez votre loyer, quand vous payez l'électricité, vous payez l'assurance voiture, parce que quand vous finissez à 10h, il n'y a plus de bus, hein, il vous faut une voiture minimum. Qu'est-ce qu'il vous reste pour manger? Rien.
Ce genre d'emploi précaire, associant temps partiel imposé et bas salaire, est quasiment réservé aux femmes. C'est une réalité statistique.
82% des temps partiels sont des femmes. Une femme sur trois travaille à temps partiel contre un homme sur 20. Aucune forme d'emploi n'est à ce point sexuée. Souvent présentée comme une fleur faite aux femmes pour qu'elles puissent s'occuper de leurs gamins, c'est en fait un outil de flexibilité pour le patronat.
Ben moi, j'ai une base de contrat de 30 heures. Si je fais dans la semaine 37 heures, les 7 heures qu'il y a, ils vont dans mon compteur. Donc si par exemple un jour je suis fatiguée et que j'ai envie de partir, ben, ils les récupèrent dans mon compteur pour pas me les payer.
Dans un couple, ça fait un salaire d'appoint pour joindre les deux bouts.
Qui est-ce qui me ramène un salaire? C'est mon mari. Donc c'est lui qui privilégie son travail. Donc c'est à moi de privilégier les enfants, parce que mon salaire, eh bien, c'est le plus bas de la famille. Donc je suis obligée, moi, de faire des sacrifices. Ça aurait été mon mari qui avait le salaire le plus bas, mais ça serait lui qui fait les sacrifices.
Le parking, c'est maintenant le lieu de la pause clope. On y rencontre un groupe de jeunes caissières qui nous racontent les joies de la grève.
Et en fait, vous étiez là jour et nuit.
Oui, nous, oui, c'est vrai.
Nous, on fait partie des filles qui
nous, sont dormies matin, midi et soir, qu'on était là tout, non, pendant 16 jours, qu'on était là toute la nuit, toute la journée. On a combattu le CRS, on était là et on est rentrés pour rien.
Comment ça, voilà. Combattu le CRS?
Ben, le directeur, vu qu'on ne laissait pas rentrer les marchandises, sa seule solution, c'est de nous envoyer les CRS. Donc, il faut savoir que les CRS, ils ont quand même frappé une femme enceinte.
Elle a été hospitalisée. Malheureusement, elle a repris le travail parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie, voilà.
On a été traité d'injustice aussi, deux fois, parce qu'on a bloqué l'accès de la galerie. Oui, non, les livraisons, on a bloqué tous les jours, on a bloqué 16 jours. Mais les accès, 16 jours. 16 jours, d'accord, ouais. La nuit, on reste là pour bloquer les camions, en fait. Voilà, on allait là, dès qu'il y a un camion qui arrivait, on disait, on fait la grève, repartez. Mais les accès, nous avons bloqué deux fois, et les deux fois, on a été traité d'injustice.
Voilà, un petit aperçu, ce reportage, il avait été aussi diffusé sur Canu à différentes reprises sur le dernier reportage là qu'on a entendu qui a été recoupé et qui dure, je crois, dans sa version complète, une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes. Voilà, bref, c'est bientôt la fin de l'émission, on n'a pas trop le temps de développer, mais on pourra y revenir. J'espère qu'avec ces rencontres, on pourra plus parler des émissions les unes les autres et échanger plus d'informations.
Qu'est-ce que faire ? On peut peut-être faire deux ou trois annonces encore. Par exemple, le fait que notre émission sœur, allez, moi je suis hermaphrodite, alors je suis sœur de moi-même. Donc Lilith Martine et les autres. Pour fêter sa rentrée, fait un pot vendredi prochain 16, pendant d'ailleurs l'émission à 17h, ici même au 24 rue Sergent Blandan, à côté donc de la place Satonnet, à Radio Canu. Et voilà, le thème de l'émission, je vous le dis au cas où, c'est le sport et les femmes. Voilà, ou les femmes et le sport, je sais plus.
Faut venir, quoi. Voilà. Nous aussi, on va être là.
Ok, et moi, je fais une petite annonce aussi, au cas où les gens n'ont pas envie d'aller jusqu'à Paris pour faire l'existence. Il y a également samedi 10 et dimanche 11, dès 16h, à Saint-Étienne, dans l'immeuble occupé du 10 avenue d'Enfer Rochereau, une rencontre autour de la psychiatrie, de la folie et des alternatives. Du coup, vous trouverez toutes les informations sur le site numéro 0, tout en lettres, .l'autre.net.
Puis voilà, on se retrouve dans deux semaines.
Voilà, on peut lire ça.
Dans une semaine, c'est Martine, Lilith et les autres.
Non, t'as inversé, c'est Lilith, Martine. Et...
Ah ouais, c'est ça.
Bref, avec le petit apéro très sympathique. Et puis, nous, on se retrouve la semaine encore d'après.
Et bien voilà.
Salut.
Salut.
Salut.